Aujourd'hui, la masterclass de Denis Lavant avec Arne Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Denis Lavant dans cette cour de l'école des Ortolans à Avignon, c'est-à-dire avec les cigales et avec aujourd'hui beaucoup de Mistral qu'on va entendre, qui va se faire entendre dans les micros. Nous sommes... Ça, c'est le faux Mistral, c'est la doublure Mistral faite par Denis Lavant. C'est le Festival 2017. Vous y jouez Cap au pire de Samuel Beckett, mise en scène de Jacques Ozinski au Théâtre des Halles, un spectacle qui va poursuivre sa vie en tournée. Mais là, pour la masterclass, je rappelle le principe de cette collection d'émissions, c'est de savoir comment un artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Alors peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Denis Lavant, pour dire que vous avez commencé à prendre des cours de clown, de pantomime, à l'âge de 13 ans, ai-je lu ?
Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait, alors.
De clown, non.
Pantomime.
Si vous voulez, non, pour être exact. J'ai commencé par des cours, un atelier d'expression corporelle.
À quel âge ?
Vers 13 ans, ouais. À l'adolescence, quoi. Mais parallèlement, je me suis exercé tout seul à essayer d'acquérir des disciplines du cirque. C'est-à-dire le jonglage, le marcher sur les mains, des choses simples, quoi. L'acrobatie au sol, le monocycle, le funambulisme, tout ce que je pouvais faire chez moi en banlieue, quoi, avec les moyens du bord. C'est-à-dire, il n'y avait pas tellement de choses à l'époque pour de matériel dans le commerce. J'avais trouvé un monocycle à la Samaritaine.
On trouvait tout,
et là, c'est fermé maintenant. Et voilà. Et c'est vrai, mon premier truc, atelier, c'était sans parole, c'était expression corporelle, qui n'était pas spécialement du mime technique, comme à l'école de Marceau, ou comme j'ai abordé un petit peu plus tard. Et c'était vraiment, c'était libre. Et pour moi, ça me convenait parfaitement, parce que j'avais pas encore de facilité avec la parole.
C'est venu ensuite pour intégrer le conservatoire ensuite ?
Pas exactement, c'est une option que j'ai prise à un moment donné où je me suis déterminé à être comédien. Alors que j'ai pu hésiter à un moment donné à aller plus vers les arts du cirque, parce que j'avais un potentiel assez conséquent pour ça, quoi. Une énergie, puis quelque chose d'excentrique qui me plaisait beaucoup, mais... j'ai voulu aller vers la parole. Donc j'ai essayé de comprendre. J'étais dans les écoles pour essayer d'apprendre comment on faisait, comment on pouvait rigoler autant avec son corps qu'avec sa voix.
Qu'est-ce qui fait choisir une voix plutôt qu'une autre ? Est-ce que par exemple aussi, là vous disiez entre le cirque et le théâtre, mais est-ce que vous auriez voulu être musicien, écrivain, peintre ?
Non, en fait, moi, mon option cachée, elle est plus cachée pour personne maintenant, mais bon, mon option un peu occulte, mon plan de navigation très intime, c'est d'être clown. Mais curieusement, on va pas forcément où on va, quoi. La navigation, c'est de prendre des caps, de tirer des bords, et puis il y a de la dérive aussi, il y a le vent, vous voyez. Et donc, ma première option, mon idéal, presque, c'est d'être sur une piste de cirque à faire clown. Et donc, personnellement, parce que pour moi, le clown est dans un domaine poétique. C'est le poète de la piste. J'ai effectivement collectionné, pendant une partie de mon existence, même que je continue, des conneries, des bricoles, de faire des petits actes un peu performants d'acrobatie, comme le monocycle, de jouer avec des petits instruments de musique, comme le concertina, comme tous les petits instruments avant. J'ai accumulé ça. Mais je ne m'en suis pas encore servi. Et en fait, je me suis dit, finalement, que j'attendais vraiment d'avoir, sans que ça soit artificiel, sans avoir besoin de mettre un nez rouge d'avoir un faux crâne et des grandes oreilles, et je sais pas, d'imprimer moi-même dans ma vie le faciès d'un clown pour attendre de le jouer, quoi. Et genre, ça avance.
Vous croyez que ça vient
Oui, je fais ça, par exemple. Qui est une pure originalité parce que c'est de l'escargot.
C'est une coquille d'escargot.
C'est une coquille d'escargot qui n'est absolument pas truquée. Il n'y a pas de micro dedans. Elle est entièrement vide. Et voilà. Donc c'est le genre de trucs qui sont une fantaisie. Mais pour moi, l'idéal, en fait, c'est d'être dans cet rapport poétique à la vie au quotidien. De ne pas avoir besoin de scène pour exercer ça, quoi.
Mais du coup, vous en avez retiré quoi du conservatoire, des années de formation? On apprend quelque chose dans les écoles?
Écoutez, moi j'ai fait deux écoles. J'ai fait plusieurs écoles différentes, hein, parce que je n'ai pas suivi un cursus absolument rigoureux et comme ça, très très net. J'ai commencé par jouer au lycée, dans un groupe de lycée. C'est comme ça que j'ai abordé le théâtre, dans un groupe totalement amateur, au lycée La Canale, dans la banlieue sud. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Alain Fournier, l'auteur du Grand Monde, qui était passé par là d'ailleurs. Ça m'a fait plaisir, mais enfin bon, c'est un peu idiot, mais bon, c'est toujours touchant. Et donc, il y avait un prof d'histoire géo, Michel Fragonard, qui est mort, hélas, depuis, et qui avait commencé avec le théâtre de l'Aquarium, qui avait commencé à Normal Sup. Et lui, il aimait trop l'enseignement, il avait voulu continuer à enseigner, mais à privilégier un petit groupe de théâtre. À l'époque, il n'y avait pas encore option de théâtre au lycée. Et donc, on se réunissait et on jouait. On montait des pièces de Brecht, de Michel de Gelderode, qui est un auteur belge, de Michaud. On a même fait On ne badine pas avec l'amour de Michel. Et tout le monde donnait son avis, tout le monde faisait les costumes. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est l'endroit idéal. C'est un endroit de liberté, de poésie, qui est... Je veux faire ça. Après, j'ai été dans les écoles. J'ai passé des concours en me disant, on va m'apprendre mon métier sans doute. J'ai d'abord été à l'ENSAT, à la Rue Blanche, quand elle était encore à Paris. Et bon, là c'était plutôt agréable parce qu'il y avait différents corps de métiers. Donc ça brassait des gens qui faisaient des choses différentes. Il n'y avait pas que des comédiens en train de se chercher. Mais déjà, ça m'a rendu un peu perplexe, l'enseignement du théâtre, qui consiste à apprendre des scènes de concours, donc des scènes où soi-disant il y a quelque chose de dramatique ou de comique à jouer, où il y a du texte, et puis de les isoler et de les bidouiller comme ça sous la direction, sous le regard d'un professeur, soit un ancien comédien ou un comédien qui travaille, soit un metteur en scène. Et déjà, je ne comprenais pas comment on faisait. J'avais énormément d'énergie. Et pour moi, ma propension, c'était de bouger le plus possible et dans un état émotionnel spasmodique et d'essayer d'émettre le texte, de le dire plus ou moins comme ça, en vrac. Et après, effectivement, on essayait de m'expliquer qu'il fallait séquencer les objectifs. Mais bon, pour moi, c'était quand même... Il fallait que je comprenne par où ça passait. L'énergie qui livrait le texte. Par où c'était la canalisation, quoi. J'ai marné un peu comme ça pendant un trimestre. Et après, j'ai été directement dans une troupe de théâtre en Belgique. Pendant ma première année de Rubens, où là, j'ai vraiment appris, si ce n'est mon métier de comédien, en tout cas, le rapport à la vie. Il y avait des poètes, il y avait des clowns, il y avait des gens hauts en couleur, il y avait des grands humains, quoi. Et pour moi, ça a été une année très enrichissante. J'ai un faible pour la Belgique, pour Bruxelles. Il y a quelque chose de baroque, il y a une fantaisie, il y a un manque de prise au sérieux de soi-même, quelque chose de très généreux, quoi, que j'aime bien, d'éminemment poétique, en fait. Et je suis revenu parce que je voulais apprendre mon métier, quand même. Et donc, j'ai continué. Et puis, je suis passé au conservatoire. Et au conservatoire, c'est là que j'ai le moins compris. En fait, disons, après, ça peut changer. Après, il y a des gens qui... Je ne veux pas faire une règle par rapport à moi.
De vous, vraiment. Ouais.
Mais moi, je n'y ai pas trouvé mon compte parce que c'était un peu... Je suis tombé sur un professeur la première année qui a failli m'inhiber complètement du fait de jouer. À force d'essayer de me faire comprendre que je pouvais aller dans une plus grande sobriété de l'expression. À force de me dire moins. Ouais, j'y suis dans la sobriété de l'expression, de toute façon. Après, mais alors que ma propension, c'est plutôt de faire, de livrer des choses et ensuite de réduire. Il suffit de le dire, hein, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué de réduire que d'aller dans le plus large. Et comme j'ai commencé avec la rue, le théâtre de rue, la Comédia dell'Arte, et pour moi, ça va déjà... C'est la grande dimension d'expression physique et vocale qui me donne de l'aplomb. Et après, c'est toujours possible de parler très bas et puis de ne pas faire de gestes du tout, quoi. Mais bon, mais de toute façon, c'est déjà... Pour moi, quand même, c'est là le plus grand repère que j'ai sauvegardé pendant ma trajectoire de comédien, c'est quand même le plaisir. Et c'est absolument important de défendre ça et d'essayer de le retrouver. Il y a mes premières émotions de comédien en jouant de façon brute au lycée, c'était de la pure jubilation. d'avoir une audience de lycéens qui sont pas forcément le public le plus facile, et de les appâter, de les tenir, de leur communiquer, de leur faire suivre une histoire, c'est formidable. Mmh. J'ai un peu appris à me méfier du rapport qui pouvait s'établir entre le comédien et le metteur en scène, le rapport de pouvoir et de séduction, puisque le comédien est forcément dans cette situation-là de séduire par son être un comédien qui aura envie de l'aimer, de le voir dans un rôle. Donc c'est dangereux, c'est un peu périlleux, quoi. Puis le rapport de pouvoir, parce que pour moi, il y a une chose qui peut se passer dans tous les niveaux de rapports sociaux entre le comédien et l'acteur, entre le marionnettiste et le pantin, ou le comédien qui peut devenir tyrannique et prendre le pas sur le metteur en scène, ou le niveau le meilleur qui est équitable de dialogue. Le metteur en scène qui a une vision extérieure du dispositif, du texte, de la raison, du poème, et le comédien qui a une expérience intime du texte, du poème, et donc de l'auteur. Et je pense que c'est dans la relation entre les deux, dans l'échange, dans le dialogue, qu'il y a ce qui peut sortir de mieux. Et après, avec le public. J'ai juste un souvenir, parce qu'elle va venir ce soir me voir au théâtre en plus. En deuxième année de conservatoire, j'ai quand même eu une prof qui était... qui m'a quand même donné du bonheur, si je puis dire, de pouvoir m'exprimer en poésie. C'est Viviane Théophilides. Et là, c'était effectivement, il y avait une liberté totale d'expression poétique. Et du reste, c'est drôle parce que j'ai expérimenté à cette époque-là, c'était en 82, je pense, 82, 83, un premier morceau de Beckett que j'ai travaillé dans sa classe, que j'avais présenté aux journées. J'en ai du conservatoire, un petit extrait de Molloy, de Beckett. C'était mon premier Beckett, et là c'est mon deuxième avec Jacques Ozanski, entre une deux, j'en ai pas fait. Mais c'était un moment, le seul moment vraiment que je reconnais, que j'assume comme un moment de théâtre que j'ai fait pendant mes 2 ans au conservatoire, parce qu'après, je suis pas resté.
Alors juste, voilà. après, vos débuts, on va dire comme ça, Denis Lavant, même s'ils ont commencé plus tôt. Mais en préparant cette masterclass pour France Culture, j'ai vu qu'en 83-85, en 2 années, entre le théâtre et le cinéma, vous avez travaillé avec Antoine Vitesse, Patrice Chéreau, Claude Lelouch, Mathias Langhoff, Léo Scarrax. Ce qui est quand même assez vertigineux.
Ouais.
Vous trouviez ça normal à l'époque, ou vous goûtiez chaque moment?
Moi, je trouvais ça normal. Mais c'est-à-dire, je voyais pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez, pour mettre les pendules à leur place, comme dirait l'autre, Vitesse, c'est le premier qui m'a engagé, qui m'a mis les pieds sur une scène de théâtre après ma sortie, après la Rue Blanche. Parce que j'ai eu la chance de faire un atelier en deuxième année de Rue Blanche avec Jean-Christian Greenwald, qui avait monté le book de Fassbinder, qui nous a permis, en plus des journées de sortie de la Rue Blanche, de le jouer comme des vrais comédiens dans un théâtre rue Fontaine. Et à partir de là, il y a des gens qui m'ont vu. Je faisais un loup-bar avec une mobilette. Je ne sais pas ce que je faisais, mais bon. Et qui m'ont présenté à Vitesse, qui cherchait un jeune comédien pour intégrer dans l'Orfeo de Monteverdi, qui montait à l'époque, et où il n'y avait que des chanteurs d'opéra. Et à l'époque, ils ne se bougeaient pas du tout, les chanteurs. Ils se posaient et ils chantaient. Et Vitesse, je crois, s'arrachait les cheveux qu'il n'y ait pas de mouvement, quoi, qu'il n'y ait pas de vie. Et mais très très tard, dans les répétitions, genre 15 jours avant la première, il a voulu rajouter un personnage qui faisait du mouvement.
Bon, et il a bien trouvé.
C'est tombé sur moi, ça s'appelait l'esprit de la danse. Et pour moi, c'était le bonheur total, et puis c'était d'une facilité déconcertant, quoi. Parce que c'est là d'où je venais, le mouvement. Ça m'était complètement familier. Et j'ai travaillé avec un chorégraphe, Milkos Parenblek, dont je me souviens le nom encore, très sympathique, qui m'a écrit une petite phrase chorégraphique où je suivais Orphée. Et donc je m'ébattais comme ça, au milieu des chanteurs lyriques. C'était trop bon, quoi. Et donc voilà. Et puis je ne me rendais pas du tout compte de l'importance de cet homme de théâtre. Et puis qu'il a une grande fidélité, c'est-à-dire il m'a repris ensuite quand il a monté
Hamlet,
pour faire aussi un rôle à tendance plutôt physique, comme on m'a confié au départ, qui était la reine de comédie. C'est-à-dire dans les comédiens qui arrivent à Elsener, je faisais en travesti le comédien qui joue la reine, avec une pantomime, avec Alain Olivier, qui faisait le roi. Et ça aussi, c'était une expérience formidable, parce que tous les soirs, j'entendais Hamlet. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers de Shakespeare, que je me suis dit, ah oui, Et là, j'étais en train d'écouter tous les soirs, c'était Richard Fontana qui jouait Hamlet. Tous les soirs, je me disais, ah non, moi, je jouerais plutôt comme ça. Quoi, ce truc-là. Essayer de comprendre, quoi, de m'approprier les sensations par rapport au rôle. Mais j'ai toujours pas joué. Donc voilà.
Non, bah ça va venir.
Mais c'est pas grave, c'est une sorte de
cap.
De cap improbable. Mais je navigue par rapport à ce cap quand même. Il y a Clown et Hamlet, vous voyez. Ça fait deux pôles.
Bon, on attend la rencontre des pôles.
Et donc, et pour remettre, ouais, repréciser les choses, à l'époque, effectivement, j'ai tourné Boy Meets Girl avec Léo Scarrax. Ouais. Mais à l'époque, Léo Scarrax, il n'était pas plus connu que
court-métrage.
Que moi-même. Alors, il avait fait Strangulation Blues. Ouais. Donc c'était son premier long-métrage. Et c'était un jeune homme, un jeune réalisateur, comme on en rencontre, en plus qu'on est au conservatoire, qui viennent chercher un peu de la matière première dans ce vivier d'artisans. Et donc voilà, c'était des prémices d'une rencontre qui pour moi a eu beaucoup d'importance, qui s'est développée ensuite. Évidemment, avec Claude Lelouch, la même chose, mais différemment. C'est-à-dire quand on est au conservatoire, souvent on est pris, on vous propose une journée de tournage, mais plus une figuration intelligente, comme on dirait. Donc je me souviens, avec Lelouch, je sais plus dans quel film j'ai tourné, j'ai même pas lu le scénario en fait. On m'a donné une scène, il y avait une scène où je devais livrer du caviar empoisonné à Jean-Louis Trintignant. Et puis ça prête pas à conséquence, voilà. C'est tellement impressionnant, on est tellement jeune, puis on a juste un acte à faire, peut-être une parole, et on essaie de faire ça le mieux possible, et on a un jour de tournage, et là on réfléchit même pas si c'est bien ou mal, quoi. On est dans une... un précipité de sensations, de jeu, qu'on a l'impression qu'on irradie de partout, mais c'est un tout petit rôle, quoi. Tout petite chose.
Et pour revenir à Léo Scarrax, quand même, Denis Lavant, bien sûr qu'il a une place particulière, et on parlera des retrouvailles relativement récentes, surtout autour de Lee Motors, mais qu'est-ce qu'il a vu en vous que les autres n'avaient peut-être pas vu, ou qu'est-ce qui s'est révélé aussi grâce à vous de son cinéma? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette relation entre vous?
Vous avez le temps?
Oui.
Parce que c'est quand même un domaine assez dense et vaste, et je maîtrise pas toutes les données d'ailleurs. Moi, à mon avis, il a perçu chez moi quelque chose qui... je sais pas, justement. Pas une histoire de sympathie, d'atome crochu, c'est une histoire d'identité. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de où je pouvais. Quoi, il a décidé, si vous voulez, parmi énormément de comédiens de ma génération à l'époque, que c'était moi qui pouvais être le personnage, son personnage de fiction, sa projection cinématographique, qui va être Alex sur trois films, avec des personnalités différentes dans Boy Meets Girl, dans Mauvais Sang et dans Les Amants du Pont-Neuf. Et puis après, ça devient autre chose, quoi. Mais disons que ce premier Alex, pour moi, il est pas écrit pour moi, Alex de Boy Meets Girl. C'est vraiment une sorte de transposition d'un moment de où est Léo de sa vie. C'est un jeune homme qui doit partir au service militaire, qui a envie d'être cinéaste, quelque chose de très personnel, presque autobiographique là-dedans, qui est en rupture avec sa copine et qui est en errance dans Paris. Et pour moi, par contre, c'était un univers qui était mais à 10 000 lieues de ce que j'avais envie de vivre. Pour moi, le théâtre, c'était plutôt Shakespeare. C'est une chose en costume qui n'était pas dans un réalisme
de
contemporain.
De noir et blanc.
Oui, c'est ça. Et bon, et je me suis livré à cet exercice. Je n'ai pas compris grand-chose de ce que je jouais, sauf des choses poétiques qui me parlaient à l'époque et qui faisaient partie, qui sont un peu... Parce qu'on est de la même génération. C'est-à-dire le gars, quand il va piquer les disques de Barbara... à la Fnac, des choses comme ça, quand il observe les amoureux qui s'embrassent sur le Pont Neuf, déjà le Pont Neuf, qui leur jette des sous, des choses comme ça. Quand le personnage, il se met à marcher dans la rue et qui fait attention à marcher seulement sur les pavés, sur les dalles et pas à mordre sur les bordures, parce que sinon c'est danger mortel, quoi. Des superstitions enfantines. Et donc, à mon avis, il y avait tout cet univers-là de l'enfance qui nous liait et qui continue à nous lier. Et puis, à mon avis, il a perçu chez moi une capacité de jeu, et non seulement naturaliste, mais physique, c'est-à-dire excentrique. C'est-à-dire, c'est le premier qui m'a fait danser. C'est lui qui a vu que j'étais un danseur avant tout. Alors que moi, je voulais être comédien. Mais c'est le premier qui m'a fait danser sur David Bowie. Après, il y a Claire Denis qui m'a fait danser. Après, il y a d'autres gens qui ont voulu me faire danser. Même des chorégraphes. Mais et voilà, donc il a vu tout ça et... Mais à mon avis, c'est surtout pendant notre premier tournage, où moi, je comprenais pas ce que je faisais, où lui, il m'a vu me comporter. C'est-à-dire, forcément, entre les scènes, comme je vais faire un personnage naturaliste, ça m'emmerdait un peu, d'être dans une sobriété comme ça. Donc, entre les scènes, je marchais sur les mains, où je faisais une pirouette, quoi. Et donc, après...
Ça nourrit le deuxième film.
Dès le deuxième film, il a poussé ça très loin, quoi. Chaque fois, il m'a poussé dans des limites, c'est-à-dire au-delà de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire, chaque fois, j'ai été obligé d'apprendre des choses, de travailler, mais c'était très bien. Sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi il vient m'emmerder à essayer de me faire sortir de moi-même? Et en même temps, j'ai appris énormément avec lui. C'est-à-dire, j'ai été obligé de me plier à des disciplines, c'est-à-dire à aller à un niveau plus haut en acrobatie, à faire de la moto, à faire du parachute, à embrasser des filles, à danser sur David Bowie, à être affûté, être dans un... En fait, à représenter une sorte de deux jeunes premiers, finalement, contemporains. Mais c'est une chance, parce que c'est un domaine, un registre, que dans les écoles de théâtre, on m'a jamais proposé. Donc c'est heureusement que je suis tombé sur Léos, ou sur d'autres metteurs en scène, qui ont projeté sur moi un imaginaire qui n'était pas celui conventionnel des cours de théâtre.
Dans la fureur du Mistral, ouais, ici à Avignon, ouais, pour votre masterclass, Denis Lavant, j'évoquais ce film des retrouvailles, on va dire, entre Léos Carax et vous, enfin le grand film, le long métrage, Holly Motors. C'est comme un cadeau pour vous, parce que c'est un film sur la condition de comédien, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'être un acteur, d'endosser des personnages? C'est un film qui a une place particulière pour vous?
Ah bah oui, bah c'est y a sans doute vu que c'est le dernier qu'on a fait. C'est un film, moi je suis vraiment très heureux qu'on ait pu faire ce film, parce que sinon avant il y avait Les Amants du Pont-Neuf, qui était la plus grosse chose qu'on ait fait, qui était un tournage épouvantable, monstrueux, qui a duré 3 ans, qui était une expérience humaine un peu limite, une expérience de comment dire, de coller avec le personnage, d'aller chercher une authenticité, de se meurtrir, de boire,
de
se mettre à mal, de se salir et de se perdre. Et donc d'aller frôler des limites, mais en même temps, je ne regrette pas. Mais c'était quand même une expérience violente, dans laquelle j'ai laissé des plumes. Et donc de se retrouver, quoi, d'exaucer quelque chose d'autre, de cinématographique, et de l'ordre du jeu avec Holly Motors, qui s'est amorcé d'ailleurs sur le premier moyen métrage qu'on a fait pour Tokyo, où il y a ce personnage qu'il a inventé, que je trouve le plus charmant des personnages qu'on a fait ensemble, c'est Monsieur Merde, et qui réapparaît dans Holly Motors. Et c'était bien, parce que pour moi, c'est pas une célébration du comédien, ni une célébration du cinéma. Ça raconte autre chose. Si vous voulez, quand j'ai lu le scénario, j'ai vu ça comme ça, j'ai compris, oui, c'est la journée d'un comédien, vu par Léos. Et en même temps, pour moi, il y a une sorte de dialogue entre nous, ou de règlement de compte aussi entre nous dans ce film, parce qu'il y a des citations des films précédents, ou des contentieux qu'il y a entre nous. Il y a un peu un règlement de compte quand il y a ce dialogue entre le producteur, qui est joué, le démiurge, qui est joué par Piccoli, et Oscar dans la limousine, où il dit, ah ouais, les gens, ils vous trouvent un peu fatigué, pourquoi vous continuez? Pour la beauté du geste. Mais ne dites-vous pas que la beauté, elle est dans l'œil de celui qui regarde. Il y a une sorte de passe d'armes qui est assez jolie. Mais pour moi, ça raconte quand même... Ça parle de la condition humaine, simplement de l'incarnation humaine sur la Terre, quoi, où tout le monde est tout le temps en train de jouer un rôle et d'en sortir et de passer d'un rôle à l'autre, selon à qui il a affaire, selon qu'il est en famille, celui qui est en société, selon qu'on est au travail, selon qu'on est avec un supérieur, un inférieur, un mendiant. Tout le monde est sans cesse. Dès qu'on sort de chez soi, on endosse un personnage, et même chez soi. Même des choix pour soi-même, quoi. Et c'est bon, c'est comme ça, quoi. Donc ça me raconte ça. Mais je suis vraiment heureux. Puis c'était un tournage qui s'est très bien passé. Ça m'a rappelé le tournage de Mauvais Sang, qui était aussi un tournage qui était en état de grâce. Voilà.
revenir sur la dimension du corps, parce que dans, bon, Holy Motors, c'est ces transformations physiques. Votre corps, Denis Lavant, il est quand même particulier dans le paysage du théâtre et du cinéma. C'est pas par hasard que Antoine Vitesse vous a vu, vous, et pas un autre, que Léo Scarrax, après, s'est servi de ce travail-là. On sait que vous marchez sur les mains, que vous pouvez courir en dansant, que vous pouvez beaucoup demander à votre corps. Mais c'est vrai que la danse, moi, vous l'avez évoqué, mais moi, j'ai vraiment en mémoire, et j'y pense souvent à cette scène de ce générique fin de Beau Travail, un film de Claire Denis, où vous dansez quand même sur ce tube immense, The Rhythm of the Night. Le corps, c'est un instrument de travail, vous le faites progresser, vous faites avec le corps qui change au fil des années. Quelle relation vous avez avec ce corps ?
Je sais pas, comme tout le monde, quoi. C'est un instrument de locomotion, de réjouissance, c'est un creuset de sensations. Pour moi, c'est un compagnon de route. C'est forcément quelque chose, parce que je me suis rendu compte très vite que je pouvais compter sur une dynamique physique et une jubilation surtout. Physique comme ça, naturelle. Et des premières choses qui me sont apparues drôles, c'est de tomber. C'est la chute. C'est de pouvoir se ramasser par terre sans se faire mal. J'ai trouvé ça épatant, quoi. Et donc, d'où l'acrobatie, un petit peu. Mais j'ai pas été à un niveau très haut en acrobatie. Et puis, simplement, de se comporter, en fait. Finalement, moi, je fais pas de sport. Je fais pas d'exercice particulier. C'est pas un outil de travail. Je me dis, je suis pas du tout un danseur ou un circassien qui sera en train de peaufiner un exercice. J'ai fait ça. Je suis passé par là quand j'étais plus jeune, de jongler sans arrêt ou de m'exercer sans arrêt. Mais après, c'est plutôt d'être sans cesse dans une élégance. D'aimer marcher, d'aimer me comporter. En fait, d'être dans une... de se comporter dans une forme de danse au quotidien. Ou dans une... oui, c'est une forme de... Bah, c'est la forme qu'on a, le corps. Il y a quelque chose je peux pas mettre de mots là-dessus, justement, parce que c'est du geste. Et c'est dans le geste que je me retrouve, que je me suis toujours retrouvé. C'est pour ça qu'on parle de danse. Je me suis rendu compte très tard que j'aurais pu faire danseur. Mais j'ai voulu comprendre la parole, aller vers le verbe. Et donc, mais il me reste ce potentiel de danseur. Et je sais très bien que il y a un moment donné, quand les mots, ou quand je perds le fil des mots, c'est le geste qui va me donner qui va me donner une raison d'être, une raison d'exister, une raison de m'exprimer. C'est là que je vais me retrouver chaque fois dans quelque chose d'authentique, de juste. Après, la parole, c'est plus quelque chose que je canalise, que je continue à métaboliser, mais qui passe par le corps. Bon, l'exercice est particulier avec la pièce Cap au pire que je fais avec Jacques Ozinski, parce que il m'a mis dans une immobilité de menhir qui est plus que élocution, qui est plus que verbe, qui est plus que vision et verbe. Mais en même temps, pour moi, c'est passionnant, parce que je me rends compte qu'on peut bouger aussi en étant immobile. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça continue à bouger. Et c'est ce que j'ai essayé de comprendre dès le début, en étant un comédien, en devenant comédien parlant, quoi.
90 minutes d'immobilité pour Cap au pire, Denis Lavant, c'est aussi une performance physique, ô combien. Mais est-ce que du coup, les mots, le texte, ils sont là différents? Parce qu'il y a des phénomènes physiques. Vous devez avoir du sang qui afflue dans les mains, les jambes qui sont lourdes. Il y a des choses comme ça qui se passent où vous n'êtes que dans la langue, que dans le verbe.
Non, je ne nie pas mon corps. Les fonctions organiques, elles continuent à exister. Je continue à respirer, à avoir le sang qui coule, et avoir le cerveau qui est irrigué. Je ne suis pas en catatonie.
Non.
Mais, évidemment, je suis ancré. Et l'essentiel, c'est de bien commencer. Comme tout. De bien se positionner sur mon mouchoir, sur ma page, sur mon truc lumineux, là, au départ. Et après, c'est physique, quoi. Mais c'est de se poser et puis d'entamer un voyage en étant dans... Mais c'est sans me débattre. Hein. Moi, je suis d'accord pour être immobile, parce que si on se met à lutter, si on se met à se gratter ou avoir envie de... Non, c'est cool, en fait. Bah, j'aime beaucoup ça. C'est un drôle de truc, mais j'aime... ouais, c'est un voyage. Parce que des fois, j'en ai... Moi, je cherche l'immobilité et le silence, quand même. Je trouve que c'est un domaine que j'ai pas assez exploré, justement parce que j'ai plutôt une tendance, une propension à m'agiter, quoi. Quand je suis sur un plateau ou n'importe, à bouger, quoi. Parce que ça me rassure. Et là, l'immobilité et la parole entrecoupée de hiatus, de silence, de blanc dans le noir. Et c'est, il y a quelque chose de. Quand ça se passe bien, quoi, généralement, juste ici, ça se passe à peu près bien. Mais quand les gens rentrent avec moi dans cette navigation-là crépusculaire et qu'il y a un dialogue qui se crée avec cet amenuisement. Et donc, il y a à un moment donné, effectivement, dans ce mutisme, forcément, des spectateurs, et moi qui suis plus que dans ce verbe qui se réduit, qui s'amenuise, il y a un dialogue étrange, assez fascinant qui se produit.
Mais avant d'entrer en scène, alors, pour Cap au Pire ou pour un autre spectacle, avant de rentrer sur un plateau, est-ce qu'il y a une mise en condition? Est-ce que vous avez des rituels? Est-ce que...
Bah, vous savez, rituels, c'est un peu comme les toreros, quoi. Comme on a peur, comme moi, j'ai peur, et puis ça ne s'améliore pas avec l'âge. Il est justement, au contraire, parce que c'est chaque fois plus de... On vous confie des responsabilités plus graves par rapport à des textes plus difficiles, des situations encore plus impossibles. Et puis il y a une accumulation d'expérience. Et puis on sent que quand on vieillit dans le métier, il y a un peu les gens qui vous attendent. Pas au tournant, souvent avec bienveillance. Et donc ça fait... on appréhende de plus en plus de se retrouver sur le plateau. De se retrouver à... Et plus on fait des choses comme ça, plus c'est... Comment dire? Il y a quelque chose qui se passe... De l'ordre de, quand même, de l'improbable, d'avoir tout un texte en tête et de pouvoir le restituer, le jouer et emporter des gens dans cette illusion, dans cette fantasmagorie, je dirais. Et ça paraît de plus en plus improbable de faire ça. Et donc, c'est de plus en plus paniquant. Et donc, forcément, on a tendance à avoir des rituels, mais qui ne sont pas des rituels. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas d'exercice. Et puis, c'est chaque fois, selon les pièces, selon les lieux où on les joue, selon comment on les a créés, il y a d'autres rituels qui s'inscrivent. Là, sur une durée à Avignon, forcément, j'ai des rituels, vaguement, un petit peu. Quand je fais une italienne avec Jacques Ozinski, tous les jours.
Tous les jours.
Ouais. En faisant le tour de la ville ou un endroit. C'est-à-dire des endroits calmes, c'est pas facile.
Ah ben je vous ai croisé dans l'autre jour, c'était ça que vous... Mais vous faites à haute voix.
À haute voix.
Oui, je vous ai entendu sinon, en vous croisant dans la rue il y a quelques jours.
Est-ce que dans sa tête, ça...
Ça marcherait pas pareil.
Et puis, oui, il y a forcément des choses qu'on... Par où on va passer avant d'aller au théâtre. Moi, j'ai tendance à... À partir d'une certaine heure, je pars au théâtre, mais je vais d'abord commencer par m'éloigner du théâtre. Puis par faire le tour un peu du spot dans le sens des aiguilles contraires d'une montre. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là, des trucs comme ça. Et puis des fois, c'est idiot. Et des fois, juste avant une représentation qui a été très très bonne, on se rappelle qu'on a mangé telle chose. Donc bêtement, on va refaire la même chose. Et après, ça garantit rien, quoi. C'est pas une sauvegarde. Donc il y a des choses comme ça. Et puis après, effectivement, il y a dans la loge, quand on est au théâtre, qu'est-ce qu'on fait? Si on va boire un café, si on va jouer, je joue du ney ou de l'escargot des fois, parce que ça me détend. Puis c'est un autre son, quoi. Un ney, c'est une flûte, ouais. Vous voyez.
Vous l'avez là?
Ah oui.
Dans votre sac? Ah oui.
Donc je joue ça parce que c'est... C'est agréable, je ne suis pas un très très grand musicien, mais pour moi, j'en joue pour moi. Là. Juste ça, un son de neige.
Un son.
Voilà, un son.
D'accord.
Et donc ça après, bon, Mais en fait, le pire, c'est le moment. C'est après, ça, c'est du divertissement. C'est pour oublier, parce qu'on ne va pas se mettre à dire le texte. Le pire, c'est de se dire, juste avant d'entrer en scène, est-ce que je sais encore le texte ? Manifeste. Et là, il y a un moment donné, en fait, où il faut dire, d'accord, nos problèmes, j'y vais. C'est pas que j'oublie, c'est pas que je m'oublie, c'est je passe, je rentre en sommeil, ou je rentre en songe, ou je rentre dans une dimension qui est un autre temps, qui est une autre mesure, où je reste le même, mais je passe de façon doucement, sans brusquerie, ce seuil. Et après, c'est, une fois que c'est commencé, on peut plus rien faire d'autre, quoi. On peut continuer. Une fois qu'on a passé le moment, il y a la porte qui donne des loges sur le plateau, et après, il y a le seuil où on entre dans la lumière, devant les spectateurs, et là, on peut plus faire retour arrière. Mais c'est là que ça peut être drôle, hein. Par exemple. Et des fois, c'est là que, souvent, finalement, parce que moi, je peux pas entendre parler de concentration, parce que c'est pas parce qu'on est concentré que c'est là qu'on est là. Des fois, c'est à un moment donné, c'est un accident qui va vous donner, pof, la dynamique. Parce qu'on peut être très concentré, et puis en fait, ça n'avance pas. On n'a pas la dynamique. Et par exemple, sur ce spectacle, l'autre jour, avant-hier, ou en début de semaine, il s'est passé un truc qui m'a complètement mis dans un truc grotesque vis-à-vis de moi-même, et en même temps, qui a alimenté ma dynamique du jeu. Un truc totalement idiot. J'étais en costume. J'étais prêt d'entrer en scène. Juste avant d'entrer en scène, je vais aux toilettes. C'est plus prudent. Avant d'aborder une heure et demie de navigation. Et je tombe pile poil. J'ai pas à attendre en coulisses. J'ouvre la porte. J'entends qu'on fait l'annonce pour les portables. Donc, je me dirige vers le plateau. Je dis, je fais pas de station. J'entre en scène directement dans le mouvement, je passe du noir, je rentre dans la lumière, et au moment de mettre mon premier pied devant les spectateurs, je rentre dans la lumière de service, quoi. Après, le spectacle commence. De mettre le premier pied, j'étais déjà engagé, je me dis, mais est-ce que j'ai refermé ma braguette ? Et, excuse-moi, c'est idiot, mais je dis, et je dis, non ! Et là, je ne peux plus faire ma chaise arrière, je fais un mouvement très élégant, je fais une volte, je remonte ma braguette, et je continue à rentrer en scène. Et ça ne s'est pas vu du tout. T'as un petit mouvement vif, comme ça, mais ça va aller mieux. Parce que tout spectacle avec la braguette ouverte, ça n'aurait pas fait sérieux. Et là, en même temps, j'étais soulagement total. Et en même temps, à l'intérieur de moi, j'étais mort de rire de cet acte, comme ça, juste en entrée en scène. Et j'étais heureux. Après, j'ai commencé le spectacle avec cette petite... pop, ce petit électrochoc dans ma tête, cette petite déflagration d'électricité, et ça m'a dynamisé, ça m'a donné le ton, si je puis dire, c'est pas le ton du spectacle, mais intérieurement, ce truc, justement qui est compliqué, en fait j'y pensais tout à l'heure, quoi, j'y pensais vaguement, mais j'y pense toujours un peu vaguement, parce que si vous voulez, quand on a parlé de Holy Motors, et quand on a parlé des Amants du Pont-Neuf un petit peu, pour moi c'est deux paramètres de jeu très très extrêmes. Pour les Amants du Pont-Neuf, disons qu'on a travaillé avec Léo dans quelque chose qui aurait à voir avec l'acteur studio. Avec l'imprégnation du rôle, avec l'incarnation absolue, sans plus voir clair entre le comédien et le rôle. Dans le Holy Motors, on a travaillé en conscience, tellement il y avait des personnages, dans ce qu'on pourrait appeler, dans ce qu'on appelait ce qu'on appellerait la distanciation brechtienne. C'est-à-dire cette notion de distanciation où le comédien est dans le contrôle et pas dans l'émotionnel, se perd pas dans un état, mais est dans le fait de montrer, d'être un marionnettiste de lui-même. Et ben pour moi, c'est jamais réglé, cette question-là. Je suis pas brechtien ou stanislavien, à la limite les deux m'emmerdent, mais je pense que je travaille dans une zone qui est une navigation entre les deux. Parce qu'on est tout le temps avec ce contrôle d'être dans l'idée qu'on sait très bien qu'on joue. Et si on se perd, on ne peut pas jouer. Si on est perdu, on est dans un autre état. On peut donner quelque chose, mais il n'y a pas forcément cette acuité par rapport au jeu et cette manière de transmettre, de proposer quelque chose à entendre, même une émotion. Mais si on est que dans le contrôle, ça n'est pas intéressant non plus. S'il n'y a pas d'émotionnel qui circule en vous, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'humain qui est pas du tout raisonnable, c'est aussi emmerdant. Donc il y a ces deux choses-là, pour moi, dans lesquelles je suis pris, quoi, sur le plateau.
Mais justement, Denis Lavant, quand vous faites un nouveau film, quand vous faites un nouveau spectacle, est-ce que ça se nourrit du précédent, des précédents, pour creuser un même sillon, ou est-ce que c'est parfois aussi en opposition, vous choisissez un projet par rapport à celui que vous venez de faire, ou ce sont les hasards de la vie qui font qu'on passe d'un rôle à un autre? Mais ça nourrit quand même à chaque fois.
Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a des fois, très clairement, des rôles au théâtre ou au cinéma qui sont comme des préparations à d'autres rôles. Mais des choix, des choses qui n'ont rien à voir, qui sont très différentes, où on va trouver, puiser des éléments, dire, ah oui, ce que j'ai ressenti là, ça m'amène de façon évidente à pouvoir jouer ça. Mais après, il n'y a pas que le théâtre, il y a la vie aussi. Mmh. Et en fait, c'est tout un ensemble de choses qui est interactif. Si vous voulez, pour moi, il y a des rôles qui me nourrissent, qui me font grandir, qui me font comprendre, c'est-à-dire de partager de la pensée de certains auteurs, c'est formidable, ça vous éclaire, ça vous donne une lucidité par rapport à certains événements de la vie. Mmh. De la même manière, il y a des événements de la vie, des choses du quotidien, des joies, des tristesses, des drames, qui vous alimentent complètement pour le jeu. Mmh. Parce qu'en tant que comédien, on est quand même ça. Comme moi, je me considère comme ça, une sorte de réceptacle, une bibliothèque de sensations, d'émotions que je métabolise. Et malgré moi, je garde la mémoire. Je suis pas en train d'analyser, qu'est-ce que je ressens là, mais c'est presque une déformation. De pouvoir vivre des choses des fois très douloureuses ou très joyeuses, et de dire, ah oui, correct. Tu vois, d'avoir éclos une sensation nouvelle ou une pensée nouvelle, de dire, ah oui, je comprends, ça me donne un élément, ça me donne un appui pour pouvoir jouer ça, quoi. Mmh. Ou après, mais c'est pas aussi organisé. Ouais. Après, il y a j'ai toujours réagi avec une certaine évidence, un certain instinct dans les choix, dans mes choix, de travailler avec un tel, de travailler sur telle pièce. Et après, il y a vraiment, moi, je laisse faire énormément le hasard. J'ai jamais démarché pour dire à quelqu'un, ah oui, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Il y a quelque chose qui est l'ordre des choses qui circulent et des choses qui s'intéressent, des gens et des choses qui s'intéressent à moi en m'amenant à jouer tel ou tel personnage, à me faire naviguer, parce que chaque fois c'est une navigation, à embarquer avec un tel ou un tel. Des fois, bon, des fois il y a des croisières qui ne sont pas forcément de toute gaieté. Des fois, il y a des croisières qui peuvent être fastidieuses, mais on s'en sort toujours, quoi. Ouais, et puis, de toute façon, il y a quand même la notion, c'est toujours un embarquement pour un temps. On n'est pas prisonnier à vie d'un rôle ou d'une pièce. Et ça, c'est assez rassurant, en fait.
Oui, mais du coup, Denis Lavant, quand on vient vers vous, on vient vers un acteur très singulier, très marquant. Vous arrivez avec tout ce que vous êtes, corporellement, de votre histoire de comédien, de votre parcours, de vos films. Quand on choisit Denis Lavant, on choisit vraiment quelqu'un de très, très, qui existe très fortement sur le plateau. Mais vous, alors, vous êtes choisi. Est-ce qu'il y a un type, un genre de metteur en scène, de directeur d'acteur avec qui ça se passe mieux? Ou est-ce que vous vous nourrissez de tout type de méthode? Vous dites qu'il y a parfois des traversées plus pénibles que d'autres. Mais j'imagine qu'on y apprend aussi des choses.
Bah oui.
Comment est-ce que...
Toujours.
Toujours.
Oui.
Mais on se demande toujours à quel point l'acteur est créateur aussi de son personnage et de son rôle. Qu'est-ce que vous sentez acteur, créateur, vous? J'allais dire créateur, mais c'est ça.
Ah oui, absolument. Quoi, c'est-à-dire... Je vous dis, pour moi, l'idéal du travail, de la relation avec un metteur en scène, c'est le dialogue. Donc pour moi, le comédien, je préfère le terme comédien si vous permettez, comédien, il est forcément il est dans une création, il est dans une proposition, il est lui-même matériau et démiurge aussi de son jeu, quoi. Et voilà.
Et quand on est seul en scène, c'est encore plus particulier.
Oui,
c'est un exercice que vous appréciez particulièrement.
Ben, ça fait plusieurs fois que je suis seul en scène. C'est un drôle de truc. J'en ai fait 3, 4, quoi. J'ai fait Céline. Ouais. J'avais fait il y a plus longtemps un texte de Coltès, La nuit juste avant les forêts. Mmh. Et ben, ça de assez valorisant. Qu'à un moment donné, on peut compter que sur soi, quoi. Donc si la pièce marche ou si ça marche pas, on est le seul responsable, quoi, en dehors de la mise en scène. Mais au niveau de la prestation du jeu, on peut pas taper sur le voisin en disant t'as été très très mauvais. On peut que dire vraiment la vente a été nulle ou pas mal. Mais il y a quelque chose qui est une sorte de face à face avec le public qui est plutôt rare, hein, qui est assez marrant. Mais après bon. Ça dépend. Je tiens pas à faire ça toute ma vie, quoi. Pas faire comme Philippe Cobert, faire du one man show. Parce que j'aime bien les gens. C'est très sympa d'être avec des partenaires, même si des fois ils sont agaçants, des fois on les supporte plus, même si on est en compétition. Mais c'est quand même, pour moi, une pièce de Shakespeare, quoi, une pièce où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de générations de comédiens qui dialoguent. Et qui remuent, qui sont dans le même poème, c'est vraiment, c'est ça aussi le théâtre, quoi. Et c'est surtout ça. Ouais.
Mais à propos de Seul en scène, Denis Lavant, c'est dans cette catégorie que vous avez reçu, sauf erreur, le seul Molière que vous avez remporté. C'était donc pour faire danser les alligators sur la flûte de Pan d'Émile Brami. Au cinéma, j'ai vu un prix à Toronto pour Holly Motors. Je trouve que c'est quand même, je trouve personnellement que c'est quand même bien peu pour un acteur comme vous. Est-ce que vous êtes sensible aux récompenses?
Écoutez, à l'origine, je m'en fous complètement. Pour moi, c'est pas, et c'est pour ça que je les ai pas tellement attirés, d'ailleurs, les récompenses. Mais je trouve ça un peu, ça infantilise beaucoup, quoi. J'ai toujours considéré que c'était quelque chose d'infiniment commercial. Mais puisque le théâtre a tendance à tomber dans le même phénomène commercial que le cinéma, c'est normal que ça existe. Ça valorise. Après, si vous voulez, à l'âge que j'ai, et puis depuis le temps que je fais ce métier-là, effectivement, c'est quelque chose de réconfortant, brusquement. Mais pour moi, c'est plus comme si brusquement on estampillait, on validait mon travail de 30 ans, quoi, de me filer un Molière. Puis c'était tellement improbable d'avoir un Molière pour Céline. Mais bon, après, je trouve ça un peu, si vous voulez, pour moi, le seul retour qui m'importe, qui est 10 000 fois plus, comment dire, plus agréable, plus réjouissant qu'un Molière, c'est des gens qui me sourient. C'est-à-dire de rencontrer au quotidien, dans la rue, même sans rien me dire, des gens qui m'adressent un sourire que je sais, c'est un sourire qui vient d'une émotion qu'ils ont reçue ou qu'ils ont vécue par rapport à ce que j'ai pu créer à un moment donné. Et ça, c'est l'essentiel, c'est le rapport humain, chaleureux, immédiat, idéal que je retrouve, qui est pour ça, c'est pour, oh putain, j'arrive même plus à parler, hein, ça va être dur ce soir, hein, excusez-moi, c'est pour ça que je continue à faire, que je fais du théâtre, hein, plus que du cinéma, parce que il y a ça, cet échange là éphémère, que je trouve rare, et qui est la seule chose qui me convainc de continuer, quoi.
Justement, qu'est-ce que permet le théâtre que ne permet pas le cinéma, Denis Lavant, et qu'est-ce que permet le cinéma que ne permet pas le théâtre, du coup, au-delà des questions techniques, mais vraiment pour ce que vous y ressentez comme comédien?
Le théâtre est un exercice qui n'a pas son pareil. C'est quelque chose qui c'est un acte qui est très archaïque, qui a existé bien avant le cinéma, qui est un phénomène humain qui est de l'ordre de la cérémonie magique, parce que c'est une assemblée de gens qui acceptent de croire que un groupe de d'artisans sont des personnages d'une histoire fictive. Et pourtant, ils voient très bien que ça n'est pas vrai. Et ils acceptent de rentrer dans cette illusion et qu'on leur raconte une histoire d'être en même temps à distance et en même temps partie prenante de ce qui est en train de se raconter et de le soutenir par leur vue, par leurs ouïes, par leur sens qui accompagne cette histoire. C'est un truc qui est très rare, qui n'existe pas au cinéma. Au cinéma, il y a quelque chose de beaucoup plus qui est factice. Que moi, j'ai beaucoup apprécié le fait de faire du cinéma avec des grands cinéastes comme Léos, comme Claire Denis, comme Harmonie Corinne, quoi, des poètes du cinéma. Mais je ne tiens pas à tourner absolument au cinéma parce que c'est de rentrer dans un domaine qui est factice et qui veut faire croire que c'est du réel. Et ce qui me trouble beaucoup au cinéma, c'est qu'on a tendance beaucoup plus à identifier le comédien, l'acteur, à son personnage. Et donc il y a une sorte de confusion que je trouve un peu bête, que je trouve un peu absurde, qui sert à rien. Et alors qu'au théâtre, c'est très très clair. Les spectateurs savent très bien qu'on n'est pas le personnage. Et une fois la scène quittée, les gens vous parlent comme à quelqu'un de normal. Alors qu'un comédien de cinéma, moi je suis dans les deux. Donc effectivement, je me rends compte que j'ai cette aura de cinéma où il y a des gens qui viennent me voir, presque me toucher, pour voir si l'icône est en chair et en os. Et d'être dans une sorte d'inquiétude et d'enthousiasme inquiet qui me trouble moi-même. Et donc, pour ça, je me méfie du cinéma, quoi. J'aime en faire dans des cas particuliers, mais ce que ça implique dans la relation humaine, je trouve que c'est quelque chose qui est louche.
Mais est-ce qu'il y a aussi cette dimension que, je cite très approximativement Louis Jouvet, qu'au cinéma, on a joué et qu'au théâtre, on joue, et que c'est le présent qui compte, et c'est le corps. Ce sont des vivants qui vont voir d'autres vivants, dit Claude Régis, pour parler du lieu de théâtre, c'est ça qui est émouvant. C'est l'importance du présent, chaque soir, on y retourne, et c'est là, maintenant.
Ah oui. Oui. On joue aussi, hein, quand même.
Non, mais c'est le présent, je veux dire, qui compte.
Mais de toute façon, pour moi, le théâtre, c'est pour ça que je continue à exercer cet artisanat. C'est parce que c'est un des seuls endroits de l'existence où on peut être sans arrière-pensée dans du présent. Où on peut vivre un présent le plus absolu possible. L'absolu, il ne faut pas rêver non plus, comme dirait Beckett. Quoi, ça serait trop beau, comme dirait Beckett. Mais on est quand même comme une montgolfière qui se déplace en même temps que le vent. Vous avez été dans un ballon dirigeable, une montgolfière, il n'y a pas de courant d'air. Parce qu'on se déplace en même temps que le vent. Et bah, sur une scène de théâtre, on approche ce présent-là, on est dans le mouvement du temps. C'est-à-dire, on est en train de dire, et plus, de toute façon, plus on est au présent, et dans le cadre du texte de Beckett, c'est flagrant, plus on est au présent dans ce qu'on dit, plus ça est. Parce que si on est en train de jouer en préméditant, bon, après je dois faire ça, on n'y est plus. Et de la même manière, pour moi, le cinéma est dangereux et redoutable, et surtout le cinéma qui est mis à la portée de tout le monde, où chacun fait son cinéma. Et c'est-à-dire, je vois par exemple, comme hier, j'allais voir Les Sujets à Vif. Moi, j'étais en train de goûter à un spectacle avec un jongleur qui fait un équilibre comme ça, un truc qui se déroule devant moi, dans mon présent. Et je suis emmené dans le présent des artistes sur scène. Et je vois quelqu'un à côté de moi qui m'a dérangé, qui m'a amené dans un autre temps, qui a pris son téléphone et qui s'est mis à filmer. Moi, je me dis, mais il quitte le présent. Il se gâche son temps, quoi. Il s'empêche d'être dans le présent. Parce qu'il filme quoi? Pour ça? Pour après le regarder chez lui? Mais c'est con. Ah, pardon. Mais c'est idiot. Parce que là, il s'en sépare. Il s'en sépare pour le séparer et pour en jouir tout seul. Et pour en faire du temps en conserve. Alors que le présent, il était devant ses yeux. Et voilà, pour moi, c'est cet endroit-là qui est en fait qui est hyper rare, qui est extrêmement délicat à atteindre, à toucher, à appréhender, et surtout à essayer de durer dedans, parce qu'il y a tout qui nous empêche. Et pour moi, le théâtre, mais depuis des années, c'est quand même là où je peux être dans l'exercice du présent, tout en étant dans le... En faisant présent de ma présence. Mmh. Oh là là, excusez-moi. Ouais. Mais en quelque sorte.
mais il y a aussi le fait que c'est... Comme c'est au présent, c'est jamais fini. Il y a des acteurs qui disent qu'ils ont trouvé le rôle à un certain moment donné. Et que donc, mais si on a trouvé le rôle, il faut arrêter de le jouer, non ? Enfin, le rôle. Bah, en l'occurrence, façon, pour Capopire, c'est un texte, c'est encore autre chose. Mais c'est jamais figé.
Non, ça n'est jamais figé. Parce que, de toute façon, ça ne se trouve pas. Hein. On effleure une vérité. Et puis, comme, de toute façon, si vous parlez d'un rôle, je ne sais pas ce que c'est, ou un personnage, c'est-à-dire, plus on avance dans cette quête d'essayer de jouer, d'approcher du présent et d'une vérité au présent, plus on se rend compte que c'est infini. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, donc qui est plein de facettes possibles, même avec un même texte, soit même avec un texte de Beckett, qui n'est pas spécialement le plus incarné des textes que j'ai joués, quoique. Et quand même, tous les jours, il y a de l'appauvrissement ou de l'accroissement de compréhension qui se fait. Et on est tout le temps en quête de là où on effleure, on touche quelque chose. Il n'y a pas de représentation idéale, il n'y a pas de perfection. Donc on ne trouve pas, jamais. On se trouve, on s'y retrouve un peu avec un personnage, avec un rôle, avec une mise en scène. On atteint à des moments, mais dans cet éphémère. Puis le lendemain, c'est tout de suite remis en question, puisqu'on l'atteint à un moment donné avec la participation d'un équipage humain de spectateurs qui ne sera jamais le même, qui ne sera jamais les mêmes humains exactement à la même place, dans le même état émotionnel que ce jour-là. Même on remettrait les mêmes d'un jour sur l'autre, ça ne serait pas les mêmes. Et nous-mêmes, en tant que comédiens, on n'est jamais le même. Il s'est passé autre chose dans notre journée. On a vieilli d'un jour. On a accumulé ou perdu quelque chose. Donc, c'est un truc qui est infini. Mais c'est pour ça que c'est chouette. Ça ne peut pas se figer, quoi.
Merci.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Denis Lavant avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.